Margaret Yourcenar disait « Je n'aime pas beaucoup parler de moi ». Je dois vous dire que c'est mon cas aussi. Alors pourquoi est-ce que je suis ici, maintenant, devant vous? C'est parce que notre pasteur, et je peux utiliser ce pronom personnel à partir d'aujourd'hui, notre pasteur m'a indiqué avec insistance qu'il était important qu'il y ait un témoignage de l'accueilli. Je partirai donc de ce verbe « accueillir ». Accueillir qui veut dire à la fois recevoir et rassembler, qui vient bien sûr du latin, et qui a un sens très très particulier pour moi. Je viens d'une famille catholique dont François Mauriac disait que c'était avec désapprobation, elle était ma famille, une catholique tiède, et j'ai fait un long cheminement pour arriver jusqu'au protestantisme et pour être là aujourd'hui. Je dois cela, j'ai été inspirée par deux femmes d'abord. Ma tante paternelle, qui, catholique, est devenue protestante en épousant un protestant et qui a été vraiment pendant toute sa vie la preuve vivante de la foi du converti. Et ma belle-mère, Ellen Fitzjones, qui irradiait d'une lumière intérieure tous les êtres qu'elle approchait. C'est donc grâce à ces deux femmes au départ que j'ai pu commencer un long parcours. Il y a deux hommes aussi, mon mari, Alfred Jones, qui, sans jamais rien me demander, m'a conduite à lire la Bible d'une façon salutaire, et également William Sloane Coffin, qui était notre pasteur à New York, et avec qui j'ai eu de longues, longues discussions sur ce que croire veut dire. Je suis donc ici devant vous à cause de ce long cheminement. Je m'y sens effectivement accueillie. J'y ai rencontré presque tout de suite quelqu'un qui est devenu une amie, Anna, que vous connaissez bien. Et si je suis ici, c'est parce que si ma foi n'est pas un grand feu vivant et dévorant et permanent, si c'est simplement une petite lueur, si c'est une petite lumière obstinée, parce qu'elle est là, je suis là. Et je vous remercie de m'accueillir parmi vous sans me sentir indigne. Merci.
Lisons dans le livre des Actes, au chapitre 2, les versets 14 à 17. Alors Pierre, debout avec les onze, éleva la voix et énonça ce qui suit à leur adresse. Hommes de Judée, et vous tous qui habitez Jérusalem, prêtez l'oreille à mes paroles. Sachez-le, Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car ce n'est que la troisième heure du jour. Mais c'est ce qui a été dit par l'entremise du prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur tous. Vos fils et vos filles parleront en prophètes. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves.
Il est entre 8 et 9 heures du matin et Pierre, disciple prépondérant, élève la voix. À cause de l'événement qui vient de surgir pendant la fête juive de Pentecôte. Vous en connaissez quelque chose de cet événement, en avez entendu parler chaque année, autour de mai ou de juin, vous en entendez encore la rumeur de cette violence du souffle de Dieu qui s'abat sur chacun des disciples et qui les fait parler dans les langues de tous ces Juifs venus en pèlerinage à Jérusalem. Parmi tous ces gens, certains se moquent. Ils disent « Ils sont ivres, pleins de vin sucré. » Mais chacun sait qu'aucun ivrogne au monde n'a eu la capacité de parler en se faisant comprendre de tout le monde. Bien que parfois cette personne croit qu'elle est comprise par tout le monde. Pierre proteste et défend la nature de ce qui est réellement, selon lui, en train de se passer. Les 11 ne sont pas frappés d'ivresse alcoolique. Ce qui arrive, c'est une ivresse enthousiaste provoquée par la réception subite de l'Esprit de Dieu. Les Juifs fêtent à la Pentecôte le don de la Torah. Voici maintenant le don de l'Esprit de Dieu qui vient, en quelque sorte, contresigner. Ceux qui choisissent, ou celles d'ailleurs, qui choisissent les listes des textes du jour ont eu raison d'intervertir la chronologie des événements et de proposer pour ce dimanche cette intervention de Pierre, une semaine donc avant que le récit qui décrit l'événement dont je vous parle ne figure parmi les textes du jour. Le jour officiel, la semaine prochaine, de la fête devenue aussi chrétienne de la Pentecôte. Alors pourquoi ces gens-là qui font les textes du jour ont-ils raison? Parce que sinon, on ne se serait peut-être pas vraiment attardé sur ce que Pierre raconte et sur ce qu'il proclame à ce moment-là, en citant un petit prophète, Joël. Joël qui inaugure sa prophétie par la description d'une impitoyable sécheresse, qui est le prélude au jour du Seigneur, dit-il. Pierre, ce qu'il proclame, c'est sa conviction que ce qui vient de se passer est un signe des temps derniers, ou en d'autres termes, qu'il s'agit de la fin. Enfin, dans les temps derniers, raconte le prophète Joël, tout le monde devient prophète et visionnaire. Les fils, les filles, les jeunes gens et même les vieillards qui feront des rêves. Même les vieillards en ce temps-là auront des rêves. Cela n'a pas été lu tout à l'heure, mais Pierre ajoute dans sa lancée, il ajoute « Oui, sur mes serviteurs, hommes et femmes, en ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils parleront en prophètes. » La suite de la citation du prophète Joël. Oui, tout le monde en fait. En tous les cas, tout le peuple qui est appelé le peuple de la terre dans la Bible hébraïque. Ce peuple qui n'en peut plus d'avoir honte, et parmi eux, y compris les serviteurs, les esclaves, y compris les filles. y compris les jeunes, y compris les vieux. Dans les temps derniers, la répartition des rôles, des genres et de la parole autorisée n'aura plus cours. Comment se fait-il qu'à ce moment-là, tout le monde devienne prophète ? Peut-être parce qu'à ce moment-là, la prophétie habituelle n'a plus cours. Celle qui, au milieu d'un temps obscur, d'un temps voilé, décrivait le possible. Maintenant, il n'y a plus de voile. Il n'y a même plus de possible. Il n'y a plus de remontrance prophétique. Il n'y a même plus de contenu réel à la prophétie, puisque c'est la fin du temps. Et la prophétie n'est plus finalement qu'un débordement qui surgit de toute bouche désormais inspirée. C'est un fleuve qui sort de son lit. Voilà ce que Pierre, selon le livre des Actes, croyait. Il croyait ça avant, bien sûr nous le savons, que l'Église ne s'installe progressivement, avant qu'elle ne prenne la place de cette effervescence, avant qu'une nouvelle chronologie ne s'installe et que la fin des temps soit repoussée à une date indéterminée. C'est un casse-tête en fait. Oui, pour le croyant sincère et pour le théologien néanmoins sincère, c'est un vrai casse-tête. La fête chrétienne de la Pentecôte, à ce croyant sincère, on lui dit qu'elle est la fête de la création de l'Église, qu'elle est cette fête, l'inauguration de son commencement, son initialisation. Mais dans son interprétation première de ce qui se passe par les acteurs aux premières loges, cela n'aurait rien à voir avec un commencement, surtout pas d'une Église organisée, puisque la première interprétation de ce qui se passe, c'est une distribution large de l'Esprit pour tous et toutes, dans la plus grande effervescence, dans le présent pur de ce qui est en train de finalement, et je pèse ce mot, arriver. Mais c'est un casse-tête pour le croyant, puisqu'il sait, lui, surtout au XXIe siècle, que tout ce qui est raconté n'était finalement pas la fin du temps comme le croyait Pierre. Puisque lui, le croyant, il est là, posé, méditant, après 2 millénaires. Et parfois, il demande son entrée dans une église qui a fait du temps qui passe son allié et qui a pu dès lors raconter sa propre histoire. Doublement millénaire. Que faire de la fin des temps ? Certains, et particulièrement des églises protestantes évangéliques, n'ont pas renoncé et prêchent encore que nous sommes dans les temps derniers et ne sont, les adeptes de ces églises-là ne sont pas plus gênés que ça par le temps et par la chronologie et par le temps qui passe et même par les générations qui se succèdent dans leur propre église. D'autres églises ont choisi, bon gré mal gré, d'entrer dans l'histoire et ont renoncé à prêcher ce momentum qui pourtant est la caractéristique centrale de tout le Nouveau Testament. En effet, les textes du Nouveau Testament ne se voulaient pas devenir une introduction, une préface ou que sais-je, mais étaient un descriptif de la fin et un encouragement à ce que tout le monde se convertisse le plus vite possible, de peur que la porte se referme définitivement devant des vierges effarées. De la sorte, ces églises, là, ont de la difficulté à prêcher, à cause d'un porte-à-faux qui consiste à s'appuyer sur des récits qui racontent la fin des temps telle qu'elle s'éprouve à ce moment-là, pour les utiliser pour parler dans le temps qui a passé, qui passe et qui passera et qui repasse. On s'est habitué finalement à cette dissonance, mais elle est toujours là, tapie, derrière une prédication. D'autres, enfin, essaient de préserver cette dynamique, puisque c'en est une dynamique qu'on appelle, d'un vieux mot théologique, une dynamique eschatologique, c'est-à-dire ce qui parle des choses dernières. en disant que ces derniers temps n'ont pas à être calculés d'avance et que pour Dieu, par exemple selon le psaume 90, 1000 ans sont comme un jour et que nous, humains, sommes dans l'incapacité de ressentir la vitesse avec laquelle ça passe. Sauf, paraît-il, quand nous vieillissons. Quand, de façon intéressante, nous avançons mécaniquement beaucoup plus lentement, mais en même temps, beaucoup plus vite. Certains pensent que c'est une question de déperdition de neurones, sans doute, mais rien n'interdit d'invoquer l'hypothèse que les plus âgés ont en fait une meilleure perception du temps, une perception qui serait débarrassée de toutes les scories qui jusqu'ici leur ont fait croire, leur ont donné l'illusion que le temps était long, voire même infini. Je crois pour ma part que nous aurions éminemment tort d'abandonner cette dimension du temps qui s'exprime là dans ce texte des Actes, que vivaient les premiers croyants au Christ et dont ils ont rendu témoignage, car lire les textes bibliques du Nouveau Testament sans cette dimension interdit en effet presque de les comprendre. Je crois aussi qu'il serait dommageable pour notre foi actuelle, présente, que nous abandonnions cette dimension du temps, ce temps-là, pour les premiers croyants au Christ, le temps qui se contracte dans l'événement, dans l'effervescence, dans la catastrophe et aussi dans l'espoir enfin réalisé. Pour apprendre à ne pas renoncer, il suffirait déjà de s'appuyer sur le fait biologique que nous avons du mal à assumer, puisque notre cerveau n'a pas cette capacité d'assumer que nous sommes mortels. Tout au plus, nous le savons, mais de là à assumer qu'à peine nés, nous sommes dans la fin de notre temps, ça c'est impossible. La fin des temps, c'est en réalité la dimension la plus importante et aussi la plus refoulée de notre vie. Ce n'est pas un vrai adage, mais on peut dire qu'il n'y a pas que le biologique dans la vie, il y a aussi le théologique. Heureusement, qui dit que notre espérance est en Dieu, comme il est écrit dans le psaume 39, « Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer ? En toi est mon espérance. » Littéralement, ou en première conviction, l'espérance n'est donc pas pointée sur des temps à venir ou des lendemains qui chantent, bien qu'il ne faille pas en exclure la possibilité, mais cette espérance est en Dieu, d'abord, ce Dieu qui est de toute éternité, ce qui veut dire que liés à Dieu, en sa compagnie, nous sommes nous aussi sensibles à son éternité, donc à ce temps qui ne passe pas, sensible dans notre vie aux éclats de son éternité, quand le temps chronologique s'efface et que, un instant, notre espérance se réalise, comme pour Pierre, dans ce texte, qui essaie de comprendre ce qui se passe, lui qui, il y a encore quelques années, réparait des filets. Pour ne pas croire simplement et un peu bêtement finalement que les premiers chrétiens se sont trompés et pour ne plus les regarder de haut comme quand on sourit de façon condescendante devant une expression d'enthousiasme juvénile et pour ne pas abonder dans une espèce de morosité moderniste en répétant ce vieil adage du théologien catholique Alfred Loisy qui au XIXe siècle a dit, phrase qui est un virus, « Jésus annonçait le royaume et c'est l'Église qui est venue. » Il a fait le malin en disant ça. Pour éviter le casse-tête, pour éviter l'interprétation erronée des Écritures, pour éviter la dissonance et la déception, il faut simplement s'avouer que croire en Dieu, c'est vivre dans ou avec son éternité et si possible, tenter de ne plus refouler l'effervescence prophétique qui va avec. En résumé, le croyant sincère, même si pour des raisons sociales et de bon comportement, il ne le montre pas en permanence, Le croyant sincère doit s'avouer qu'il vit avec Dieu dans la fin des temps. Amen.